RFI. Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, au programme de cette petite demi-heure d'actualité sportive du foot en Europe avec un gros plan sur la 11e journée de Première Ligue. Le leader Manchester City a cartonné cet après-midi face foot en Afrique, en Tunisie, où l'on se prépare à accueillir les Égyptiens d'Al Ahly, enfin surtout l'Espérance Tunis se prépare à les accueillir vendredi pour la finale retour de la Ligue des Champions. Foot en Amérique du Sud, où là-bas c'est l'Argentine et Buenos Aires en particulier qui se prépare à vivre une finale de Copa Libertadores surtendue entre Boca et River. Et puis avec Cédric de Oliveira, nous vous parlerons aussi de vélo au Burkina Faso, de tennis à Paris, de voile à Saint-Malo et de karaté en Algérie. Direction l'Angleterre, donc, pour commencer, avant de revenir sur l'affiche du week-end qui s'est déroulée hier, 0-0 entre Arsenal et Liverpool. Honneur au leader Manchester City qui s'est imposé façon tennis face à Southampton cet après-midi, 6-1. Bonsoir Bruno Constant.
Bonsoir Olivier.
Les Citizens tenants du titre, seuls en tête, hein, du coup, au quart quasiment de ce championnat de Première Ligue au terme d'un match maîtrisé d'un bout à l'autre.
Maîtriser, c'est sans doute pas ce que penserait Pep Guardiola, parce qu'il se serait bien privé du but concédé sur penalty un peu bêtement à la suite d'une sortie ratée de son gardien. Mais effectivement, City est quand même surclassé Southampton. Il y avait 3-0 au bout de 18 minutes de jeu. Hutt contre son camp, Aguero et David Silva. Puis Sterling deux fois et enfin Sané. City est désormais seul en tête. Il y a deux choses qui impressionnent dans cette équipe. La première, c'est que dans la semaine, en Coupe de la Ligue, face à Fulham, avec une équipe totalement remaniée, City avait produit exactement le même football champagne. Et puis la seconde, on connaît le perfectionnisme exacerbé de Pep Guardiola. Eh bien, City, déjà auteur d'une saison de tous les records l'an passé, a encore progressé dans tous les compartiments du jeu cette saison. Preuve que les Mancuniens sont loin d'être assasiés.
Alors, à deux points des Citizens, Bruno, on retrouve une autre équipe qui a joué aujourd'hui, Chelsea, vainqueur 3-1 de Crystal Palace.
Oui, un succès remporté sans Olivier Giroud blessé, ni Eden Hazard au coup d'envoi, légèrement touché au dos, mais décisif dès ses premières foulées sur la pelouse, alors que son équipe était accrochée par Crystal Palace. Morata avait ouvert le score en première période, mais Thompson lui avait répondu en seconde, jusqu'à l'apparition donc du magicien de Stamford Bridge, décisif dès son entrée en jeu en servant l'Espagnol pour le deuxième but, avant que Pedro ne scelle le succès des Blues. C'est le 8e pour Chelsea, qui fait de Maurizio Sarri le premier entraîneur du club londonien à être invaincu après 11 journées. Et voilà surtout Chelsea, deuxième du championnat, la différence de but.
Alors on en vient justement au classement et au choc d'hier, hein, Bruno. 0-0, mais un très chouette 0-0 entre Arsenal et Liverpool, qui est donc rejoint par Chelsea au classement.
Oui, parce que cette affiche entre Arsenal et Liverpool est traditionnellement spectaculaire et elle l'a été une fois de plus entre deux équipes qui jouent de l'avant, deux équipes qui avalent les espaces par des attaques rapides. C'était surtout un test grandeur nature pour les Gunners qui restaient sur 7 victoires et un nul. Eh bien, on a vu une équipe d'Arsenal en difficulté défensivement face aux accélérations du duo Salah-Mané, face à la puissance de Virgil van Dijk. Liverpool a touché deux fois les montants et s'est vu refuser un but parfaitement valide pour un rejeu imaginaire de Mané, avant de finalement ouvrir le score par James Milner, qui profitait d'une erreur du gardien d'Arsenal, l'allemand Leno. Unai Emery a alors changé de formule, il a sorti son meilleur buteur, le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, il a fait rentrer trois joueurs offensifs, et puis il a été récompensé par l'égalisation du français Alexandre Lacazette, qui profitait à son tour d'une erreur du gardien, de la sortie quelque peu hasardeuse d'Alisson. Résultat, un but partout, et peut-être quelques limites entrevues pour Liverpool dans la course au titre, et pour Arsenal dans sa quête de revenir dans le top 4.
Alors du coup Bruno, on l'a dit, Liverpool deuxième à égalité avec Chelsea, à deux points de City. Arsenal est cinquième, devancé par Tottenham, qui a gagné hier 3-2 à Wolverhampton, et puis on va dire un mot aussi de Manchester United, qui a gagné aussi hier.
Oui, Tottenham qui, il faut le souligner, qui réalise des miracles depuis le début de saison, aucune recrue à l'intersaison, toujours pas de stade qui est enfin en phase de finalisation de construction, obligé de jouer sur une pelouse de Wembley labourée par les concerts ou encore les jeux des matchs de football américain, comme c'était le cas face à Manchester City. Et bien malgré tout ça, les Spurs réalisent le meilleur début de saison de leur histoire en Première Ligue. Ils se sont imposés hier sur le terrain de Wolverhampton après avoir mené 3-0 et vu revenir les Wolves à 3-2. À Manchester United, José Mourinho peut lui remercier une nouvelle fois ses Frenchies, Anthony Martial, qui a remis dans le sens de la marche une équipe des Red Devils menée à Bournemouth, avant que Paul Pogba ne serve parfaitement Rashford dans la surface pour un succès précieux. C'est une bonne manière d'entrer dans une semaine qui sera très décisif sur le terrain de la Juventus de Turin d'abord en Ligue des Champions, avant le derby de Manchester dimanche prochain.
Plus rapidement, Bruno, en quelques secondes, mais tout de même, on ne peut pas évoquer la Première Ligue hier sans évoquer le très bel hommage et surtout l'émotion des joueurs de Leicester qui sont allés l'emporter à Cardiff en mémoire notamment de leur président décédé la semaine dernière dans le crash de son hélicoptère.
Oui, le club de Cardiff avait proposé de reporter la rencontre, mais les joueurs de Leicester ont insisté pour jouer ce match en hommage à leur président et propriétaire, Wishai Srivadhanaprabha, et quatre autres victimes évidemment. Joueurs et staff étaient réunis au centre du terrain avant le coup d'envoi lors d'une minute de silence extrêmement émouvante, certains joueurs retenant leurs larmes. Et puis surtout, les Foxes ont rendu hommage à leur président de la plus belle des façons en s'imposant sur la pelouse de Cardiff City.
Merci beaucoup Bruno Constant, bonne fin de soirée à vous. On a une pensée notamment pour l'entraîneur français Claude Puel et son adjoint à Leicester, Jacques Bonnevet, que l'on connaît bien sur RFI. Pas de grosses affiches en Italie, en Espagne ou en Allemagne, où les cadors concernés par la Ligue des Champions ont tous joué samedi. Notez tout de même qu'en Allemagne, Mönchengladbach s'est imposé 3-0 face au Fortuna Düsseldorf et chip donc la deuxième place au Bayern à la différence de but à 4 longueurs de Dortmund de Lucien Favre. Et pendant ce temps-là, en Ligue 1, la Ligue 1, et Saint-Etienne pointe au 5e rang après un succès 4-3 cet après-midi face à Angers, en attendant le dénouement de Montpellier-Marseille. Alors, c'est un match en cours, il reste une dizaine de minutes à jouer, un peu plus, mais la cause est entendue puisque Montpellier mène 3-0 face à l'OM. Laborde deux fois, 51e, 62e, Lannes à la 70e, Montpellier est deuxième ex aequo de cette Ligue 1 à 11 points du PSG, l'OM 6e à 6 points du podium. Le foot en Afrique et cette finale aller, Cédric de Oliveira, de la Ligue des Champions entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis, qui n'en finit pas d'alimenter les débats sur le continent. On en parlait déjà hier. 48 heures après le match, le club tunisien n'a toujours pas digéré sa défaite 3-1.
Et depuis leur retour à Tunis, les espérantistes font leur possible pour protester contre plusieurs décisions de la CAF pendant la rencontre, notamment deux pénaltys litigieux accordés par l'arbitre. Les dirigeants, les membres fédéraux et même les hommes politiques sont à pied d'œuvre. Farouk Katou.
C'est le branle-bas de combat à Tunis. La direction du club espérantiste cherche à montrer à la CAF les injustices qu'elle estime avoir subies à cause de l'arbitre algérien Mehdi Abid Sharef, avec l'aide de la vidéo. Sans oublier les deux cartons jaunes sévères selon elle, attribués au Camerounais Francom et au défenseur Shamsidine Dawadi, qui seront donc suspendus pour la finale de vendredi prochain. L'Espérance de Tunis a d'abord participé à une réunion d'urgence samedi avec une cellule de crise de la Fédération tunisienne de football. Deux courriers ont donc été envoyés à la CAF demandant l'annulation des deux cartons jaunes et la suspension du joueur Kerot Walid Azarou qui, selon les sondiers, avait déchiré lui-même son maillot pour influencer l'arbitre. D'autre part, le président du club, Hamdi Medeb, a été reçu par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ce dimanche. Le chef du gouvernement qui a promis qu'il ferait son possible pour permettre aux 60 000 spectateurs de pouvoir assister à la rencontre de Rades. La semaine risque donc d'être très animée entre la CAF et les instances tunisiennes. Farouk Katou, Tunis, RFI.
Et les Égyptiens de Patrice Carton qui peuvent donc s'attendre à un accueil musclé de la part des espérantistes. Rendez-vous vendredi à 19h temps universel pour donc Espérance de Tunis à l'Arly. Final retour de la Ligue des Champions.
Et vous, rendez-vous dans quelques minutes. Ne partez pas trop loin. Foot toujours, direction l'Amérique du Sud et l'Argentine en particulier, qui se prépare à vivre son match du siècle. Cette semaine en effet, enfin c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils n'ont peur de rien les Argentins. Cette semaine en effet, les rivaux éternels Boca Juniors et River Plate se sont qualifié pour la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions européenne. Ils ont respectivement éliminé les clubs brésiliens du Grêmio Porto Alegre et de Palmeiras. Les deux géants argentins, 6 victoires dans la compétition pour Boca, la dernière en 2007, 3 pour River, la dernière il y a 3 ans. Les deux géants donc se retrouvent pour la première fois à ce stade de la compétition. Le match aller à la Bombonera, le stade de Boca, est prévu samedi prochain. Retour au Stadio Monumental en principe 2 semaines plus tard. La tension entre les supporters des deux clubs est à son comble déjà et des accrochages dans Buenos Aires sont déjà nombreux. Ça promet, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Présentation de cette rencontre appelée sur place donc la finale du siècle avec le plus argentin des journalistes du service des sports de RFI, Alejandro Valente.
On a vraiment deux géants face à face. C'est comme si en Europe, on avait une finale Barcelone-Real Madrid, par exemple, ou Juventus-Milan AC, ou Manchester United-Liverpool, ou qu'en Afrique, on avait une finale Zamalek Al Ahly ou AS Vita Club contre le TP Mazembe. Voilà, des choses qu'on n'a jamais vues. Et en plus, Boca et River, c'est une telle rivalité qu'elle dépasse vraiment l'entendement.
Là, on a vraiment deux clubs d'une même ville.
Voilà, et ces deux clubs qui, depuis plus d'un siècle, détestent cordialement.
Les riches contre les pauvres, c'est un peu ça schématiquement.
C'est une caricature. Disons que les deux clubs sont originaires même du même quartier. Seulement, River, avec le temps, a évolué vers les quartiers nord de la ville où il y a une classe moyenne. Mais ces deux clubs extrêmement populaires et pratiquement tous les Argentins sont pour l'un ou pour l'autre. Même s'ils sont supporters d'un autre club, ils ont toujours leur avis sur la rivalité River-Boca. C'est un match qui tient déjà en haleine depuis mercredi un pays tout entier.
Alors c'est rigolo parce que les deux équipes ont sorti l'une et l'autre des équipes brésiliennes. On aurait pu avoir une finale 100% brésilienne, elle sera 100% argentine. Du côté de River, c'était face au Grêmio Porto Alegre. Qui était le tenant du titre et bon, avec une demi-finale retour que les Brésiliens contestent un peu.
Voilà, disons que l'arbitre a sifflé un penalty après avoir vu les images d'assistance et a décidé donc de siffler ces penalties. Les Brésiliens n'étaient pas d'accord, donc il y a eu pas mal de minutes d'interruption de match, un joueur brésilien expulsé. Finalement, donc River l'a emporté. Dans le match Boca-Palmeiras, c'était un peu plus tranquille, même si c'était assez tendu également.
Est-ce que c'est une affiche qui peut faire se lever tout un continent, toute l'Amérique du Sud finalement? Est-ce que c'est ce genre d'affiche, même si elle est 100% Buenos Aires, 100% Argentine, est-ce que tout le continent sud-américain peut avoir son idée sur la question?
Bah, disons que l'idée, c'est qu'effectivement, ça va être un match qui va avoir des répercussions même en dehors de l'Amérique du Sud, même en Europe. D'ailleurs, la CONMEBOL envisage sérieusement d'échanger les horaires des matchs prévus qui normalement se déroulent à mercredi soir, avec les décalages horaires, ça fait toujours très tard la nuit en Europe, pour les placer dans les week-ends et à des heures qui permettent de les suivre partout dans le monde à une heure convenable, et notamment en Europe, ça tomberait autour de 20 heures. Et l'espoir est que ça cartonne, en tout cas dans les pays qui s'intéressent le plus au football sud-américain comme l'Espagne ou l'Italie, cette affiche suscite énormément d'engouement.
Et alors ce sera quand? Parce que c'est la grande question, on ne sait pas bien comment y répondre.
C'est vrai que personne n'avait prévu une telle affiche. Buenos Aires en plus va accueillir à la fin du mois de novembre le sommet du G20, donc les grands chefs d'État de la planète vont y accourir, alors que la finale était prévue de façon originaire le 28 novembre, c'est-à-dire l'avant-veille de l'ouverture du sommet, donc évidemment... La finale retour, donc évidemment ce n'était pas possible, ce qui a facilité la réflexion de la CONMEBOL pour essayer de l'organiser. A priori, ce sera les samedis 10 pour le match aller à la Bombonera et les samedis 24 pour le match retour au Stade Monumental. Et dernière chose, Mauricio Macri, le président argentin, a demandé qu'exceptionnellement on puisse surseoir à l'interdiction pour les supporters de l'équipe qui se déplace d'aller voir le match dans l'équipe qui organise le match pour des raisons de sécurité. C'est comme ça en Argentine. Mais il estime que pour une telle affiche et un tel match, ce serait bien de retrouver l'ambiance qu'on aime tant dans le football argentin et qui a disparu ces dernières années pour cause des violences.
Alejandro Valente, le réfé, les violences, il a bien fait d'en parler parce qu'elles sont bien présentes, hein, je vous le disais. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez depuis 72 heures des tas de gens en train de se taper dessus dans les rues de Buenos Aires. Pas sûr que ce soit donc une bonne idée de réunir les supporters des deux clubs dans une même enceinte. Enfin, sachez que pour être venu dans le vestiaire à la mi-temps lors de la demi-finale retour, alors qu'il était suspendu, bah oui, Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River, a écopé hier de 4 matchs de suspension supplémentaires et de 50 000 dollars d'amende. Cette fois, il sera bien en tribune pour cette finale. En tribune et pas sur le banc et surtout pas dans le vestiaire. Allez, direction Ouagadougou à présent pour l'épilogue du Tour cycliste du Faso 2018 avec la consécration pour le Burkinabé Mathias Sorgho, Cédric.
Et la 10e et dernière étape ce dimanche remportée par le Belge Timmy Debos n'a rien changé. Mathias Sorgho a bien été porté en triomphe par la foule devant notre envoyé spécial sur ce Tour du Faso, Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Cédric.
Alors les honneurs, enfin donc, pour Mathias Sorgho.
Ouais, le champion du Faso 2017 était déjà monté deux fois sur la troisième marche du podium, Cédric, mais jamais encore sur la plus haute. À 31 ans, il s'impose enfin après 7 jours consécutifs en jaune. Mais la lutte fut dure jusqu'au bout face au coureur européen, le néerlandais Serge Angraaf, échouant à seulement 13 secondes du Burkinabé. Sorgon est donc resté concentré sur son objectif jusqu'au bout.
Je peux dire que ça a été très difficile parce que le niveau vraiment était élevé. Les Allemands avaient un super niveau. Les Belges aussi sont venus avec un niveau pas mal. Les Hollandais qui ont occupé respectivement la deuxième et puis la quatrième place. Ça a été des adversaires de taille. Nous aussi, on s'est accrochés parce qu'on s'est préparé psychologiquement, physiquement pour aborder avec sérénité cette 29e édition.
Tu as été sérieux, concentré tout le tour. Là, tu vas pouvoir relâcher enfin.
Oui, parce que je peux perdre les pédales à un moment donné. Donc c'est pour ça que je suis resté calme, concentré pour pouvoir aborder l'étape avec sérénité.
Mais maintenant c'est la fête.
Oui, je peux dire que c'est la fête à partir du soir. En tout cas, on va commencer au niveau de la remise des prix. En tout cas, fêter cette victoire sur cette 31e édition.
Voilà, Mathias Sorgho qui peut donc fêter son sacre avec les Burkinabés. Dan Craven, lui, est l'autre homme du jour. Il était à deux doigts d'une victoire d'étape en solitaire dans la capitale burkinabé.
Et cela aurait été un jour marqué d'une pierre blanche dans la longue carrière du globe-trotteur du vélo qu'est Dan Craven. À 35 ans, le Namibien avait roulé partout dans le monde, sauf au Faso jusqu'à cette année. Et il a failli fêter cette première en enlevant la dernière étape, seul contre tous, après avoir lâché ses trois compagnons d'échappée. Mais tour après tour sur le circuit final dans Ouaga, son avance de plus de 2 minutes a fondu comme neige au soleil.
Ça fait un plaisir avoir la chance de peut-être gagner. Oui, qui était 25 km, quelque chose comme ça, seul, retrouver dernier tour est un plaisir.
Et du coup, qu'est-ce que tu ressens au moment de quitter finalement ce tour du Faso?
C'est vraiment un bon tour, c'est bien organisé. C'est le seul tour en Afrique de 10 jours, alors j'espère que ça reste encore 31
ans. Voilà, 31 ans de plus pour ce 31e tour du Faso, donc qu'on peut considérer comme un bon cru, votre avis Eric?
Un beau tour en tout cas Cédric, hein, comme le disait Dan Craven, avec du mouvement, de la science de course et trois échappés qui sont allés au bout avec les Burkinabés, Sedou Bamogo et Mathias Sorgho notamment, mais sans doute un peu trop d'arrivées au sprint. 6 sur 10 étapes, dont 3 pour le seul Timmy Debos, à la tête d'une équipe belge qui a raflé la moitié des étapes. Il faut dire qu'à partir du moment où Sorgho s'est emparé du maillot jaune, les Burkinabés n'ont eu qu'un unique objectif en tête, le ramener à Ouagadougou, un an après le sacre du Marocain Salahidine Mraouni au pays des hommes intègres. C'est ce qui explique très bien l'espoir du cycliste burkinabé Paul Daumont.
Super bilan, on a un Burkinabé sur la première marche du podium, ensuite je suis le deuxième Burkinabé à la 7e place, il y en a un autre coureur à la 9e place, donc ce qui fait un bilan de 3 coureurs dans le top 10, c'est super intéressant et ça montre dans quel état de forme a été le Burkina sur ce Tour du Faso 2018. L'objectif qu'on avait c'était cette année vraiment le maillot jaune et on avait à cœur de le conserver et voilà, vous voyez aujourd'hui la population est sortie très massivement, tout le monde criait le nom de Mathias Sorgho, ça donnait la chair de poule et on a la sensation d'avoir accompli la mission. Oui.
La mission accomplie donc pour les Burkinabés, mais que peut-on dire pour les autres coureurs du continent?
Eh bien, l'essence des Érythréens et des Rwandais, hein, intouchables quand la route s'élève, ce qui n'est vraiment pas le cas au Burkina, en l'absence des Marocains ou du meilleur Ivoirien, Essiaka Cissé, marqué par un accident sur l'épreuve l'an passé, les autres Africains présents étaient bien seuls, hein, face aux trois équipes Burkinabés et aux trois équipes européennes qui se sont partagés tous les lauriers, mais tirons un coup de chapeau au Camerounais, Clovis Kamzong Abosolo, récent deuxième du tour de son pays, encore cinquième de l'étape du jour et dixième au général après avoir tout tenté avec son copain Artus Ella. Autre coureur à s'illustrer, le jeune Hamza Mansouri, onzième au général et qui s'est fait souffler la victoire dans la 9e étape hier au sein d'une équipe algérienne décimée. Et puis il y a le jeune et attachant ivoirien Abou Sanogo, 9e au général et rapide au sprint. Abou, très déçu aujourd'hui après un saut de chaîne à 100 mètres de la ligne d'arrivée.
Il a tout tenté. Aujourd'hui à 100 mètres, il a tout collé. Après ma chaîne quitte, je suis très déçu. L'étape d'aujourd'hui.
Après, tu finis le tour comme premier Ivoirien dans les 10 premiers.
Oui. L'objectif, c'était de finir le classement et aussi de chercher une étape aussi pour la Côte d'Ivoire. Il a tenté, mais pas eu la chance. Donc, je suis très déçu pour cette année.
Mais nous, on n'a pas été déçus hein, par la course. Le pays, les gens et leur enthousiasme au bord des routes restent à savoir si le Tour du Faso pourra monter dans la catégorie supérieure des courses africaines, la 2.1, celle où figure la Tropicale Anissa Bongo au Gabon et à laquelle vient d'accéder le Tour du Rwanda. C'est le souhait, en tout cas, des organisateurs, à commencer par Francis Ducreux, celui qui a fait naître ce tour en 1987.
Eh bien, merci beaucoup, Eric Chorin. Bon retour sur Paris et à bientôt dans Mondial Sport.
Après le foot et le vélo, place au tennis avec comme l'an passé un vainqueur inédit au Masters 1000 de Paris-Bercy. Le jeune russe Karen Khachanov a créé la surprise cet après-midi en terrassant le serbe Novak Djokovic dans ce qui était eh bien la première grande finale de sa carrière finalement. Et vous savez quoi? Eh bien ça s'est passé sous les yeux d'Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Alors comme tout au long de la semaine, Karen Khachanov, eh bien il se montrait impressionnant aujourd'hui à l'Arena de Bercy.
Oui, on a assisté cette semaine à l'émergence d'un nouveau grand champion que l'on avait vu certes venir, 48e mondial en début d'année. Il était 18e avant ce tournoi, venait de s'imposer à Moscou, le troisième titre de sa carrière pour autant de finales. Mais à Bercy, il a véritablement éclaté, battant 4 top 10, Eisner, Zverev, Thiem et le meilleur du monde actuellement, Novak Djokovic, invaincu depuis 22 rencontres. Le Serbe qui a pris les commandes d'entrée, logiquement, lors de cette finale, menant 3 jeux à 1. Mais le Russe de 22 ans n'a jamais lâché, bien au contraire, se montrant de plus en plus solide en attaque. Comme en défense, pendant que Djokovic, lui, s'étiolait peu à peu, fatigué incontestablement par les 3 heures de son combat d'hier contre Roger Federer. Aujourd'hui, le Serbe, déjà un petit peu grippé en début de semaine, n'avait plus d'essence. Alors même s'il a lutté, il a dû s'incliner face à un Khachanov épatant qui a bluffé le public parisien. Victoire 7-5, 6-4 pour ce Russe d'origine arménienne qui soulève son premier trophée en Masters 1000. Une grande satisfaction pour lui, évidemment, Karen Khachanov.
It's one of my biggest titles so far. Je suis ravi de mon jeu. Match après match, j'ai pu améliorer mon niveau. J'ai battu 4 top 10 cette semaine, dont le numéro 1. En fait, cette saison, j'ai beaucoup appris de mes grosses défaites contre les meilleurs joueurs du monde. Les Del Potro, Nadal, Djokovic. Cela m'a poussé, incité à dépasser mes limites, à travailler encore davantage. J'ai constaté que j'avais le niveau, que c'était juste une question de détails. Si je persistais, si j'insistais sur la même voie, je savais qu'à un moment, la tendance allait s'inverser. J'y croyais fermement et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je rejoins au palmarès de ce tournoi de grands noms, dont ceux de mes compatriotes Marat Safin et Nikolaï Davydenko. Et cela me rend très fier.
Karen Khachanov, 1m98, personnage souriant, sympathique, qui a tout dans son jeu, les coups, le physique, le mental. Il est l'un des membres de cette nouvelle génération qui monte, les Zverev, les Kucherov, Tsitsipas, Chapovalov. Khachanov, digne successeur de son illustre aîné Marat Safin, triple vainqueur de Bercy dans les années 2000. C'est en tout cas l'avis de l'ancien joueur marocain, on le connaît bien, Younes El Aynaoui.
Moi, il me rappelle beaucoup Marat Safin, ce joueur. Je veux dire, un petit peu moins fluide au niveau des coups, un petit peu moins de talent, mais une volonté terrible, un physique aussi impressionnant. Et il se déplace surtout très bien. C'est vrai qu'à l'époque, les grands joueurs, il fait plus d'1m95, donc pour se déplacer, c'est pas facile. Mais là, on a une nouvelle génération de joueurs comme Zverev qui se déplace super bien. Les gars sont bien en jambes, mais surtout à sa concentration. Voilà, il serre le point sur tous les points pratiquement. Il était souvent dans l'ombre, ce joueur de Rublev qui était un petit peu la star qui est annoncée, et lui ils sont de la même génération, il était un petit peu plus laborieux, mais on voit qu'aujourd'hui il a nettement dépassé, et voilà, comme quoi c'est toujours bon de pas être trop fort étant jeune, ça encourage encore à travailler toujours et toujours.
Le Marocain Younes El Aynaoui. Alors jusqu'où peut aller Karen Khachanov, Eric, désormais? C'est la question que tout le monde se pose.
Alors Karen Khachanov sera 11e mondial demain au nouveau classement ATP. Il a fait 2 huitièmes de finale en Grand Chelem cette saison, c'est déjà pas mal. Et pour l'ancien joueur français Paul-Henri Mathieu, il a vraiment le profil pour en remporter des Grands Chelems à l'avenir.
Il a un potentiel assez énorme parce que c'est un joueur qui est très complet sur toutes les surfaces. Il peut aussi bien jouer sur terre battue que sur gazon. Il a déjà donc prouvé par le passé. Et surtout, il adore jouer sur les grands cours, qu'on est très grands joueurs, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Je pense que c'est un potentiel vainqueur de grand chelem dans les années à venir.
Quant à Novak Djokovic, parti furieux, on l'a vu dans les travées de l'Arena de Bercy, il pourra quand même savourer sa place de numéro 1 mondial, récupérée 2 ans après. Le Serbe qui se projette maintenant vers le Masters de Londres, qui débutera dimanche prochain.
Merci Eric Mamrut, à très très bientôt sur les antennes d'RFI. Allez, on va parler d'un sport qu'on évoque assez peu dans Mondial Sport, le karaté, à 2 jours du début des championnats du monde. Cédric de Oliveira, l'occasion de découvrir l'Algérienne Lamia Matoub, que David Kalfa a rencontré cette semaine, le chanceux.
Et la karatéka de 26 ans qui va se rendre à Madrid. La capitale espagnole va accueillir les mondiaux à partir de mardi jusqu'à dimanche. Lamia Matoub, l'un des plus beaux palmarès du continent, médaille d'or aux Jeux africains en 2015, aux Jeux mondiaux en 2017 et aux championnats d'Afrique cette année. Ça ne l'empêche pas de mener une autre carrière en parallèle, celle de professeur des écoles. Elle effectue des remplacements dans les écoles de la région parisienne et le fait d'enseigner aussi le karaté lui sert dans sa vie professionnelle.
Ça m'aide beaucoup dans la gestion des classes, parce que quand on est remplaçant, faut se dire que c'est vraiment très difficile. Enfin, tous les jours, une classe te teste, parce que tu as tous les jours une nouvelle classe. Donc tous les jours, tu es testé, tous les jours... Tu as face à toi des élèves qui disent « Oh, c'est tranquille, c'est la remplaçante et on a envie de faire la misère à la remplaçante. » Donc, tout de suite, poser un cadre et j'arrive à le faire parce que j'ai réussi à travailler ma gestion de grands groupes ici. C'est vraiment ça qui m'aide.
Lamia Matoub, qui est née en France, hein, Cédric, mais qui défend les couleurs de l'Algérie depuis 4 ans maintenant.
Oui, elle est pourtant née en France, mais elle a finalement décidé de concourir pour l'Algérie après quelques désaccords avec la fédération française. Bien lui en a pris, puisqu'elle s'est donc forgé un beau palmarès, on l'a mentionné tout à l'heure. Elle débarque à Madrid pour ses championnats du monde avec énormément d'ambition.
Effectivement, gagner. Hein, c'est pas... Si je me présente à une compétition, c'est toujours pour gagner. Je pars pas pour autre chose. Après, quelle que soit la médaille, je serai contente, mais je ne me vois pas revenir sans médaille. Ça serait beaucoup trop décevant par rapport à tout le travail fourni. J'aspire à être sur la boîte, quoi. Et sur la plus haute marche, pourquoi pas.
Alors, Lamia Matoub peut être la future championne du monde. Ensuite, elle se plongera dans la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, car pour la première fois, le karaté sera au programme.
Merci Cédric de Oliveira, bonne fin de soirée. Ça y est, hein, ils sont partis, dites donc, les 123 marins de la route du Rhum. Ils ont pris la mer au large de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, laissant derrière eux un continent et un bateau nettement moins rapide, hein, celui sur lequel se trouvait, au niveau de la ligne de départ quand même, le chanceux, l'un de nos envoyés spéciaux, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors là, vous n'êtes plus sur l'eau, mais quelque part sur une aire d'autoroute entre Saint-Malo et Paris, ça fait moins rêver, mais néanmoins, vous avez vu de près ces bolides des mers.
Oui, et ça fait du bruit, ce bruit constant de vagues fendues que vous pouvez entendre sous ma voix. Et puis, ça secoue, mieux vaut ne pas avoir le mal de mer quand vous tentez de suivre ces marins. C'est un spectacle émouvant aussi. Jusqu'à la ligne, les équipiers sont encore à bord. Et puis, ils doivent descendre, laisser le skipper seul à la barre, seul face à l'Atlantique et la concurrence. À cet instant, la tension est maximale, un peu comme avant le départ d'une course d'athlétisme. Vient enfin le moment M. 13h02, temps universel, les fauves sont lâchés.
5, 4, 3, 2, 1, top départ.
Belle route à tous, merci pour tout.
C'est un bon départ, personne n'est parti trop tôt, pas de pénalité pour départ anticipé, bon départ.
Bon départ pour tout le monde donc Thomas, le spectacle peut commencer.
Pas de temps mort, tous les skippers veulent prendre le meilleur en vol. De près, on peut distinguer leurs manœuvres, leurs déplacements sur le bateau. Mais de loin de la côte, on peut aussi les voir, ces bateaux. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, notamment au Cap Fréhel. Manu Pochès, par exemple, s'est lui baladé sur les remparts de Saint-Malo à la rencontre d'un public admiratif.
Ce sont encore des aventuriers modernes, hein, tout seuls sur des bateaux, comme ça, partir à l'aventure. Nous, on va rejoindre la maison, on va être bien au chaud et eux, ils vont être dans les embruns, dans le noir, enfin voilà.
On les admire parce que être seul sur un bateau face à la mer, ça ne doit pas être facile tous les jours.
C'est un esprit de liberté. On entendait les interviews là où les skippers là, dans la foule, en fin de compte, ils ne sont pas très heureux quand ils sont parqués pendant 10 jours ici. Par contre, maintenant, tout seul sur le bateau, à l'aventure... Là, ils sont dans leur élément et je pense que là, ils sont heureux.
Heureux celui qui fait un bon voyage, heureux aussi le suiveur qui retrouve la flotte à l'arrivée. À Pointe-à-Pitre, c'est le cas de Maurice, l'oncle du skipper Olivier Rousset, toujours au micro de Manu Pochès.
Je pars à la Guadeloupe le 22 pour essayer d'être là au moment où il arrive. Et je lui ai demandé qu'il n'arrive pas avant le 22. Il n'est pas d'accord. Hein. S'il arrive avant, il est très 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 content, mais avec la piole qu'ils vont prendre dans le golfe de Gascogne dans 2-3 jours, ça va faire drôle.
Ça va faire drôle dès mardi, normalement, avec des conditions climatiques qui devraient se dégrader, loin, très loin du beau soleil qui accompagnait les skippers tout à l'heure au départ.
Merci Thomas de Saint-Léger, bon retour à vous vers Paris. Marseille a bien perdu à Montpellier, je vous le confirme, 3-0. L'Éthiopien Lelissa Decisa a remporté pour la première fois le marathon de New York. Hélène Avril peut se prendre un peu de repos et nous on se retrouve.